C'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective. Nous sommes en train de faire la guerre à la guerre pour nous tourner vers les autres, pour construire plus durable, pour construire plus stable, pour construire plus grand, mieux et surtout, eh bien, à plusieurs. En réalité, faire la guerre à la guerre, la réponse est apparue petit à petit pendant la saison 6, pendant les épisodes 280 à 290. Eh bien, faire la guerre à la guerre, c'est d'abord se faire la guerre à soi. Nous avons tous une sorte de démon en nous qui fait que nous nous battons en permanence contre nos contradictions. Nous faisons face en permanence à ce qui forge les opposés de notre quotidien, à ce qui fait que dans notre tête, on a envie de certaines choses, à ce qui fait que dans notre imagination, eh bien, on s'égare, on pense, on s'aventure, on explore, mais que dans la vie réelle, eh bien, nous ne sommes pas à la hauteur de nos pensées, de nos exigences, de notre imagination tout simplement, alors que nous pourrions être des inventeurs, parce que les inventeurs sont les personnes qui sont capables de transposer dans le monde réel ce qui existe dans leur imagination, dans leur imaginaire. Et c'est là tout l'enjeu justement de la longue traîne, c'est d'être en mesure de planter des graines petit à petit et de faire pousser, eh bien, pas seulement un petit géranium ou trois fleurs, trois tulipes, quatre roses et cinq pensées sur le bord de la route, dans votre jardin, mais d'imaginer, non, beaucoup plus grand que ça, un arbre, une forêt, et puis pourquoi pas même une forêt tropicale, ouverte sur la biodiversité, sur le plus grand nombre d'espèces mélangées qui verraient apparaître encore d'autres espèces et qui attireraient les espèces d'à côté. Oui, c'est exactement ça tout l'enjeu de commencer à agir au final dans son quotidien. Là, ce que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui, ça va être une explication sur les cycles de vie et sur une manière de... et sur au moins sept étapes pour passer, eh bien, de simplement votre pensée à la transposition vers le monde réel, de toutes sortes de choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien et qui ont du sens. Seulement, prenez garde parce que c'est exactement ça qui se passe avec la plupart des personnes, avec tout le monde, monsieur et madame tout le monde. C'est vous, c'est moi, monsieur et madame, tout le monde. Et c'est de ne pas faire. Au final, on peut avoir les meilleurs conseils dans notre vie si on ne les fait pas, si on ne les applique pas, ils ne nous servent à rien. Alors on a un cerveau rempli de plein de choses intéressantes qui ne nous rendent pas plus intelligents. Il y a, le monde est bourré de gens intelligents, mais les gens stupides sont bien heureux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent en ne se posant pas les questions de faire ou de ne pas faire ce pour quoi ils sont quelque part destinés à faire. Passer à l'action. Le message, il est quand même assez clair au final, c'est que peu importe qui vous êtes et à quelle étape de votre vie vous en êtes aujourd'hui, la capacité à produire, la capacité à vous projeter, la capacité à actionner des leviers, la capacité à faire appel aux autres, la capacité à faire appel à vous-même, la capacité à mettre en branle toute une machinerie, peut-être intellectuelle, peut-être émotionnelle, peut-être spirituelle, peut-être mentale, peut-être manuelle surtout, n'aura pas d'autre équivalent que celle de faire les choses et de les mettre en œuvre. Alors derrière, oui, c'est sûr, on peut toujours mettre en place un système extrêmement bien réfléchi, mais n'oubliez pas des paroles aussi simples que celle de « Everybody got a plan until they get punched in the mouth ». C'était Mike Tyson qui disait ça, et Mike Tyson est réputé pour donner des coups puissants et forts et faire claquer l'air au moment où il frappe la tronche de son adversaire pendant ses matchs de boxe. Mais il a également le sens du verbe, alors peut-être pas à la manière d'un Mohamed Ali, néanmoins, l'idée au moins est claire. Eh bien, dans cet épisode, je vous ai dit, je vais vous partager une chose importante, c'est que en lien avec le tableau que j'ai produit sur la projection des cycles de vie liés aux doigts dans le miel, liés à la saison 1, 2, 3, 4, 5 et du coup 6, dans laquelle nous sommes en ce moment, divisé en chaque saison en 50 épisodes. Bestialité, faire face à ses contradictions, colère, avancer, utiliser ses échecs de vie pour avancer, fin, développer une raison d'être pour progresser, paix, accepter de lâcher prise pour évoluer, potentiel, écouter le monde pour se métamorphoser afin de servir une cause plus grande, et 6, conscience collective, faire un pas de côté pour faire la guerre, de manière à s'émanciper collectivement pour vivre notre plein potentiel, eh bien, dans le fameux tableau que je vous ai partagé, j'avais synthétisé sous la forme d'un graphique différents éléments liés à ma vie qui me permettaient de voir en fonction de mon temps de vie déjà vécu, eh bien, une projection de tous ces points qui, entrecoupés les uns avec les autres, eh bien, formaient des phases, des cycles. Et c'est absolument remarquable de voir à quel point on peut se représenter sa vie sous la forme de cycles, puisque nous passons notre temps à reproduire les mêmes choses avec d'autres personnes, en d'autres lieux, en d'autres temps, mais pourquoi pas pour les mêmes raisons, avec les mêmes déclencheurs de peur, les mêmes déclencheurs d'aspiration, les mêmes déclencheurs d'action. Et ça ne nous mène pas toujours eh bien, aux endroits où on aimerait de manière consciente aller. C'est-à-dire que quand on a envie d'aller quelque part sincèrement, de manière profonde et viscérale, eh bien, on se donne les moyens d'y aller, on a une vision, on y va à fond, etc. Et parfois, eh bien, on s'auto-sabote parce qu'on pense qu'on ne mérite pas d'y aller, ou bien au contraire, on s'auto-sabote parce que il y a dans notre tête, oui, cette petite voix qui nous dit « c'est pas comme ça que tu vas réussir, c'est pas comme ça que tu dois faire. » De toute façon, ça ne peut pas fonctionner parce que toute ta vie, on t'a appris à bien ressentir que ce n'est pas là que doit être ta place. Mais notre place, elle n'a jamais été ailleurs que sous nos fesses. Et ça, à partir du moment où vous en avez conscience, il s'agit encore de pouvoir l'appliquer. Seulement, le subconscient à digérer tout un tas de choses dans notre depuis que nous sommes tout petits, qui font que, à la manière d'un lithographe, nous avons imprimé sur de la pierre, sans faire de mauvais jeu de mots avec mon prénom, nous avons imprimé sur de la pierre tout un tas de messages qui ne sont pas des 10 commandements, mais des commandements plutôt liés à notre incapacité à bouger, à notre non-droit à devenir la personne que nous rêverions d'être. Et on ne s'autorise pas à faire plein de choses. Si je pense à 2/3 des Parisiens qui déclarent qu'ils adoreraient vivre à l'étranger, qu'ils adoreraient vivre au bord de mer, qu'ils adoreraient vivre à la montagne, eh ben, il n'y a pas un Pékin qui arrive à bouger ses fesses et à faire exactement ce qu'il dit vouloir faire. C'est pourquoi je pense que la majorité d'entre nous n'a pas vraiment envie et se ment en permanence. Et nous adoptons des costumes de nous-mêmes qui nous permettent de vivre en société selon certains codes avec lesquels nous ne sommes pas du tout à l'aise de fonctionner et qui nous entraînent eh bien, petit à petit vers des regrets, vers des remords, vers une incapacité à accepter qu'on a fait des choix et qu'on doit les assumer désormais. Parce que souvent, vers 40, 50 ans, il y a une sortie de route qui fait qu'on se rend compte à quel point waouh, tout ça n'était pas nous. Et alors, tout ça n'arrive pas du tout pour tout le monde. Mais que beaucoup de personnes, et je pense notamment aux citadins, parce que la vie n'est pas perçue comme si simple par rapport à des environnements plus campagnards, ou quoique là, c'est un travers peut-être lié à mon éducation et à la zone où moi j'ai grandi, qui est une zone de campagne proche du bord de mer, où c'était assez simple. Mais en fin de compte, l'accès au travail n'est pas nécessairement évident, le type de travail ne sont pas tous disponibles dans chaque environnement. Donc il s'agit aussi de trouver eh bien, chaussure à son pied, et que nous sommes des citoyens du monde avant tout, nous sommes des nomades depuis des siècles et des siècles. Et c'est là que nous avons peut-être une carte à jouer, parce qu'il s'agit d'accepter notre nature profonde, celle que nous sommes des aventuriers, des Coperniciens qui découvrent la rotation des astres les uns autour des autres, et que la Terre n'est pas plate ni le centre du monde. Alors, à la manière d'Elon Musk qui va aller découvrir Mars avec toute une équipe et pourquoi pas des civils, eh bien, ne nous mentons pas sur le fait que l'on veut vivre sur Mars. Acceptons le fait que nous sommes des curieux qui voulons aller découvrir Mars. Ça n'a rien à voir. Et le fait de nous comporter de la sorte dans notre vie nous permet également d'accepter que nous sommes voués à échouer sur le chemin. Nous sommes voués à nous cracher sur des rochers. Nous sommes voués à échouer encore et encore et encore, de telle sorte qu'au bout d'un moment, on sache nager, on sache jongler avec ces rochers, on sache évoluer avec tout un tas de choses qu'on ne peut pas, qu'on n'aurait pas anticipé, qu'on ne comprend pas comment ça peut arriver dans notre vie, comment est-ce qu'on aurait pu vivre avec des cailloux dans nos chaussures toute notre vie. Vous imaginez si depuis tout petit vous aviez appris à marcher avec un caillou dans votre vie, et que en fait la seule technique pour laquelle on vous a appris que c'était viable de faire, c'était de mettre le caillou différemment dans votre chaussure. Eh bien, le jour où on vous apprend que ce caillou, il peut être enlevé, mais vous tombez des nues, eh bien, je pense aussi que dans notre vie, nous apprenons à courir les jambes croisées et qu'on n'exprime clairement pas notre potentiel, ni en tant qu'être humain, ni en tant qu'individu, ni en tant que collectif, ni en tant que société. Parce que nous avons une capacité à nous replier sur nous-mêmes, ce qui s'appelle des atavismes identitaires, à nous réfugier dans des choses qui sont maîtrisées, dans le confort et dans notre petite personne. Et je dis petit parce que à ce moment-là, on ne pense plus grand, à ce moment-là, on ne pense qu'à notre nombril. Alors oui, il y a des environnements dans lesquels il n'est pas stable ni fiable d'évoluer de manière confiante avec les autres, parce qu'il y a des environnements qui sont clairement connus pour leur dangerosité. Néanmoins, dans les environnements plus modernes, eh bien, on se rend compte qu'on est resté bloqué à un état relativement primaire, animal, bestial, où on jongle avec tout un tas de contradictions qui font qu'on est pas capable de se relever, de relever le menton, de relever la tête et d'imaginer un futur différent par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à nos modèles parentaux, par rapport à ce que notre école a attendu de nous quand on était petit, par rapport à ce que nos enseignants ont attendu de nous quand on était petit. C'est d'avoir des bonnes notes, d'être le bon élève et de faire une école d'ingénieur. C'est ce que la plupart des gens attendent de nous. Eh bien, ce sont des conneries. Et je pense sincèrement qu'on passe à côté de notre mission de vie. D'une part, parce qu'on n'est pas épanoui, parce qu'on manque d'ouverture, parce qu'on ne sait pas écouter et parce qu'on ne sait pas du coup s'orienter en fonction de quelque chose de plus profond qui nous parle de manière physique également, parce que c'est le corps qui traduit en permanence tout ce que notre spiritualité, tout ce que notre mental et tout ce que nos émotions peuvent nous amener au quotidien. Alors, je vous ai parlé de ces fameux cycles de vie. Eh bien, figurez-vous qu'à propos de longue traîne, j'ai identifié trois grandes phases dans ma vie. La première, elle démarre à partir de mes 5-6 ans, c'est-à-dire que c'est un moment de changement qui a du sens d'être marqué à cet endroit-là, parce que ça faisait suite à un déménagement lié à mes parents, un changement de scolarité. Et puis avant, je ne suis pas spécialement capable de m'en rappeler. J'ai des photos, on peut me raconter des anecdotes, mais ça a été un point de départ aussi parce que à cet âge-là, le cerveau supprime toute une partie de ses neurones et adopte une nouvelle phase de maturation. Donc c'est un ancrage assez intéressant du point de vue du développement d'une personne, d'un point de vue biologique, d'un point de vue physiologique, parce qu'il se développe cérébralement parlant et du coup corporellement parlant, eh bien selon de nouveaux critères. Donc c'est un nouveau départ. Eh bien, à partir de mes 6 ans jusqu'à mon lycée, j'ai une phase qui dure un peu plus de 8 ans en réalité, mais qui est une phase relativement ascendante, c'est-à-dire que c'est un moment de quasi-innocence où en fait on découvre la vie, on découvre le monde qui nous entoure, on découvre, dans l'éducation que j'ai reçue, ce que j'ai appris à faire, c'était beaucoup lire. J'ai voyagé énormément par l'imagination, j'ai appris à raconter des histoires, j'adorais la nouveauté. Je me suis développé avec ma créativité. J'ai utilisé, grosso modo, les cadeaux que m'a donné la nature, en plus de ceux que mes parents m'ont apportés, en plus de ceux que mes amis et mon entourage m'ont apportés. Et ça a produit une phase relativement ascendante qui m'a permis, dans deux écoles, de passer des classes. Par contre, le travers de ça, c'est que je manquais de concentration en classe, j'avais des difficultés à me concentrer parce que j'avais déjà terminé tout ce qu'il fallait faire avant les autres, et ça m'a amené à perturber parfois la classe et à finir plus souvent au coin qu'un autre pendant que j'étais tout jeune. Donc je n'ai pas spécialement appris à travailler au sens où j'ai beaucoup fait ce qui m'a fait plaisir et ça m'a permis de toucher à plein de choses jusqu'à cette phase de lycée. Je dis jusqu'à ce que se fasse cette phase de lycée parce qu'à ce moment-là, il s'est passé pour moi un basculement. Je suis passé en sport-études et ça a été une catastrophe scolaire parce que l'environnement lié au sport-études que j'ai découvert, moi, il m'a permis surtout de me cracher moralement, mentalement. Ça a été un échec émotionnel, un échec mental, un échec spirituel, un échec scolaire, un échec de vie qui a entraîné toute une cascade d'événements à suivre qui ont duré à nouveau, je dirais, bien, du lycée à, donc on va dire, à les 2008 à 2015 à peu près, qui ont entraîné une cascade d'événements, même pendant ma phase d'études post-lycée, même pendant mes premières années de travail, eh bien, des comportements déviants, des comportements liés à du mal-être, liés à des comportements d'absence de confiance en soi, d'absence de confiance en les autres, de fuite en avant et en même temps de technique de l'autruche, mettre la tête dans le sable pour se cacher et se voiler la face sur le fait que ça ne va pas. On est très fort pour ça, on est très doué pour ça. Et puis on a tous raison. Donc on se raconte une histoire en permanence qui nous permet de nous sentir valorisés alors que dans la réalité, il se passe de belles conneries. Et c'est là encore qu'on est extrêmement doué parce que notre imagination nous permet de nous représenter la réalité différente de ce qu'elle est. On peut avoir un compte en banque avec plusieurs centaines d'euros en négatif, plusieurs milliers d'euros en négatif. On peut consommer de l'alcool à gogo tous les jours, toutes les semaines. On peut être violent, on peut faire plein de choses que si dans notre tête, eh bien, on se sent puissant, eh bien, on associera tous ces travers qui sont des comportements de suicide social, littéralement, qui à notre valorisation d'image. Et on se dira, bah oui, mais c'est ça qui fait de moi un dur, c'est ça qui fait de moi quelqu'un de valorisé, c'est ça qui fait de moi quelqu'un qui vaut la peine de vivre en société. Donc c'est encore une fois un exemple. Je ne dis pas que tous ces exemples sont ceux que moi j'ai vécu, ce sont des exemples que j'ai pu partiellement vivre de manière... Enfin, aléatoire et conjointe parfois, parmi d'autres événements et parmi d'autres personnes qui peuvent vivre aussi la même chose, en sachant que comme nous sommes des miroirs les uns des autres, on a tendance aussi à se rapprocher des personnes qui nous ressemblent. Donc, quand on agit par exemple d'une façon qui est extrêmement destructrice envers soi, on a tendance à se rapprocher d'autres personnes qui sont aussi destructrices envers elles-mêmes. Et devinez ce que ça forme ? Eh bien, des environnements où on est entre personnes destructrices d'elles-mêmes. Donc destructrices du point de vue de la vie, destructrices du point de vue du cerveau, destructrices du point de vue de l'amour, destructrices du point de vue de la reconnaissance, destructrices du point de vue de l'environnement épanouissant, du travail d'équipe. Parce que nous sommes seulement des individus qui sommes ensemble à ce moment-là, et qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Mais c'est quel genre d'échec, ce genre de truc ? Eh bien, je trouve que c'est un échec extrêmement violent. Extrêmement violent, c'est extrêmement animal, extrêmement bestial. Et c'est un challenge que de s'en sortir. C'est un challenge parce qu'il faut, il n'y a personne pour le faire à notre place. Et en général, plus on nous pousse à nous en sortir, plus on va se réfugier dans notre propre modèle mental pour nous dire « Mais non, je refuse de ce genre de choses ». Donc ça va avoir un impact pendant des années. Et c'est là qu'on commence à parler de longue traîne. C'est que la première phase, par exemple, quand j'étais plus jeune, à partir de mes 6 ans jusqu'à mon lycée, donc on va dire, je veux dire 6-15 ou 6-14, eh bien, c'est une phase pendant laquelle, en apprenant à lire, à voyager, à imaginer, à créer, à dessiner, à s'ouvrir sur tout un tas de sujets, du sport, à l'art, aux sciences de la vie, à l'astronomie, etc., etc., eh bien, on s'émancipe. On grandit en tant qu'humain, on se développe, on développe nos sens, on développe notre motricité, on développe nos relations sociales, on se construit, quoi. Et la phase descendante, eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on utilise exactement la même chose au profit de tout ce qui peut être négatif, quitte à appliquer, eh bien, exactement, une forme de d'auto-suicide social. Alors, cette deuxième phase, elle a duré, elle aussi, environ 8 ans. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le moment où moi je me suis dit « Ok, il faut que ça s'arrête », il est très marqué. C'est un point d'inflexion profond, sincère, extrêmement... C'est une singularité dans mes étapes de vie. Et je pense que vous en avez peut-être vécu également, dans le sens où on a tous et toutes nos histoires, on a tous des moments forts comme ça qu'on peut vivre, et il y en a un ou deux ou trois dont on se rappelle. Alors, c'est peut-être pas une journée de type « Eureka, j'ai trouvé », mais une période très brève pendant laquelle il s'est produit quelque chose d'intense et où vous avez pris une décision beaucoup plus importante sur le plan émotionnel, sur le plan de votre vie, sur le plan de l'impact que peut avoir cette décision sur votre vie, en vous disant « Ok, je m'engage autrement, je change quelque chose, je vais vers là maintenant, ça suffit, stop. » Eh bien, pour ma part, ça s'est reproduit autour de 2015, donc ça fait un peu moins de 6 ans, ça fera 6 ans cette année. Donc c'est pour ça que ça fait environ 8 ans les phases de cycle. Mais je pense que ce cycle-là touche à sa fin en ce moment parce que ça a été une période où du coup je me suis re-beaucoup étudié, je me suis intéressé à un certain nombre de sujets, j'ai eu quelques réussites, démarré quelques nouveaux projets, etc. Et subi beaucoup d'échecs aussi. Donc ça a été une période extrêmement conflictuelle entre l'avant qui vous suit encore, et puis l'encore avant duquel vous essayez de vous inspirer pour trouver de nouvelles façons de faire mieux. Et il y a une friction entre tout ce que vous avez vécu qui est lié à votre expérience et qui sont vos ancrages sensoriels, vos ancrages émotionnels, vos ancrages expérientiels, parce que vous avez vécu des choses très très fortes de votre point de vue qui font que c'est un conflit permanent entre le bien et le mal, entre la dualité du vous avant et celle du vous futur. Mais tout ça est une belle connerie dans le sens où ne serait-ce que de penser à cette dualité est intéressant parce que en réalité, c'est un total, c'est vous et c'est soi, c'est moi, c'est une personne à part entière. Il n'y a pas un avant et un après, il n'y a qu'une personne qui a vécu des choses qui sont passées et qu'elle n'est plus, et des choses qu'elle vivra au futur et qui n'existent pas. Et on peut avoir par contre une vision pour se projeter en avant et s'imaginer d'une certaine manière pour construire au présent exactement tout ce qui va nous amener à faire ça. Donc je pense aussi que ce cycle qui se termine, dont la fin pointe le bout de son nez, c'était aussi l'occasion de dire, est-ce qu'il rechute ou est-ce qu'il continue à aller de l'avant? Est-ce que je passe par exemple de la saison 4 à la saison 5, de la paix au potentiel? Est-ce que je passe de la saison 5 à la saison 6, du potentiel au productif? Mais est-ce que j'ai bien vécu la saison 5? Eh bien, là encore, la saison 1, bestialité, la saison 2, la colère, la saison 3, la fin, la saison 4, la paix, la saison 5, le potentiel, la saison 6, le conscience collective, ne sont jamais une seule saison de vécu. Il y a une dominante à un instant T qui a un impact sur la distribution et l'organisation des autres et le rôle que chaque saison, par exemple, peut jouer dans le fait d'être au quotidien et d'agir, donc d'être et de faire. Mais ce sont des ensembles qui vivent, qui coexistent, qui collaborent, qui sont de multiples déterminants ayant un impact à chaque instant. Donc c'est juste quelle est la teinte la plus apparente et qu'est-ce que ça cache? Ça, ce sont l'écoute des signaux faibles qui nous permettent du coup de mieux nous orienter dans la vie. Et en l'occurrence, je vous l'ai dit, le podcast est inspiré de choses du quotidien. Le podcast est inspiré de grandes idées que j'ai pour le monde, mais il reste très terre à terre parce qu'il est extrêmement pratique par rapport à ce que moi je peux vivre et à ce que je peux observer chez les autres, de même que grâce à vos retours d'expérience. Et je vous invite à les partager à nouveau si ce n'est pas clair pour vous ou si vous avez des idées complémentaires, en sachant que de temps en temps, eh bien, il y a un témoignage ou deux qui font écho à, par exemple, l'épisode des pervers narcissiques, ou encore à l'épisode des barrières mentales, ou encore à l'épisode du cheval de Troie lié aux émotions. Le cheval de Troie qui avait eu un franc succès d'ailleurs, et qui était, eh bien, si ma mémoire est bonne, autour de la saison 3 ou de la saison 4. Je vous laisserai le retrouver, il suffit de le chercher. Il s'appelle comme ça, le cheval de Troie, qui permet de se faire croire qu'on vit différemment par rapport à la situation réelle. Et ça nous permet de nous projeter dans un autre état émotionnel que celui dans lequel on pourrait être de manière classique pour se sentir différemment et du coup agir différemment et du coup réussir différemment. Donc ça, c'est aussi assez spectaculaire, la manière qu'on a de pouvoir agir entre notre mental, nos émotions, notre spiritualité et sa traduction physique. Alors, c'est pas spécialement la loi de l'attraction, ni peut-être à la limite reliée à ce qui s'appelle la loi de la vibration, c'est-à-dire un ensemble d'énergies qui sont sur la même fréquence. Mais peu importe le nom que vous voulez lui donner. Attachez-vous-y avec l'expression qui valorisera votre manière de penser et tentez de composer avec cette histoire. Eh bien, en l'occurrence, cette phase qui se termine d'un peu plus de 6 ans, pour moi, eh bien, j'ai essayé de reproduire la mécanique d'apprentissage que j'avais quand j'étais petit, avec mon moi d'aujourd'hui. Donc, c'est apprendre énormément, lire, s'intéresser à des choses qui nous font plaisir, mais en même temps, les travailler pour être capable de devenir bon, de développer des compétences singulières, de sortir du lot, de viser l'excellence. Et tout ça n'aurait pas été possible sans que je rencontre également des personnes qui me permettent d'y arriver mieux, plus vite, différemment ou bien tout court. Parce que nous n'avons pas toutes les cartes en main, on ne connaît pas tout de la vie. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'on vit avec des présupposés, des préjugés et qu'on fait des tentatives pour accomplir certaines choses. Que ça vaut la peine de s'intéresser à la vie des autres. Ça vaut la peine de, non pas de se baser sur l'opinion des autres, mais de comprendre par où ils sont passés, comment est-ce qu'ils ont fait pour y arriver, comment est-ce qu'ils ont fait pour aller là où on veut aller. Est-ce que c'est vraiment là qu'on veut aller? Est-ce que on ne se voile pas la face sur le fait qu'on est très attiré par quelqu'un qui nous donne envie de faire comme lui, mais en réalité, c'est plutôt sa manière d'avoir réussi qui nous impressionne et qui nous drive. Donc, pour piloter tout ça, l'identification de la dominante des 6 saisons, bestialité, colère, faim, paix, potentiel et conscience collective, je l'ai répercuté sur ce fameux tableau dont je vous parle pour comprendre aussi quelles sont les 3 grandes tendances pour l'instant, les 3 grands cycles de vie auxquels j'ai fait face. Et il y a plusieurs fois où la bestialité, la colère et la faim apparaissent. Néanmoins, la paix, le potentiel, c'est vachement plus récent. Et je vous ai dit également que le podcast avait pour objectif de me faciliter la vie pour passer certaines étapes. Eh bien, ça marche. Maintenant, est-ce que ça va marcher encore? Eh bien, est-ce que je vais mettre les bonnes actions aux bons endroits, au bon moment, à ce point-là, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs liées à des choix passés? Donc, est-ce que je vais faire preuve de lucidité, etc. Eh bien, c'est un questionnement qui existe. Néanmoins, j'ai quand même confiance dans ma capacité à faire mieux parce que j'ai appris à faire mieux. Alors, il y a de nouveaux repères, de la même manière que, je le répète, nous ne sommes pas notre passé. Nous avons expérimenté grâce à notre passé, mais nous ne sommes pas lui, donc il n'y a plus aucune raison viable de croire que nous sommes la même personne et qu'on vaut la même chose qu'hier. D'ailleurs, à ce sujet, et pour parler de longue traîne, je vous ai partagé au moins 2 ou 3 fois une manière de calculer des avancées dans son quotidien sous forme de pourcentage pour savoir et comment est-ce qu'on peut progresser de 1% par jour en atteignant ses objectifs? Eh bien, si ma mémoire est bonne, il m'avait fallu 13 semaines pour passer de 1 à 2. À raison de entre 0,5 et 1% par jour. Je vous garantis que ça ne fait pas beaucoup, mais que tous les jours, en s'accrochant à cette idée que l'on peut progresser un petit peu, un chouïa, eh bien, on construit une échelle aussi vers des choses qui valent la peine de s'accrocher et de vivre. Donc, c'est une manière d'apprendre qui fait que aujourd'hui, j'ai progressé de. Je suis passé de 1 à 2,5. C'est que dalle! Mais c'est tellement plus que d'habitude que tout ce que j'ai fait avant. Donc, c'est aussi intéressant de trouver les bons véhicules relationnels, financiers, éducatif pour apprendre et surtout accéder à quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, c'est-à-dire le bonheur. Et le bonheur, tant qu'à faire, le vivre en ayant plus d'argent. Parce que être heureux et être riche, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Être riche, ça peut être d'un point de vue financier, ça peut être d'un point de vue familial, ça peut être d'un point de vue amoureux, ça peut être de tout un tas de points de vue. Vous pouvez être riche au bord de la plage, vous pouvez être heureux au bord de la plage, mais si à chaque fois vous êtes obligé de faire la manche pour survivre, pour acheter 3 bouts de pâte que vous devrez manger cru, moi ça m'intéresse pas non plus. Donc comment est-ce que vous faites pour vivre selon vos termes, mais dans une société qui le permet avec les autres, en capitalisant sur ce qui fait notre environnement aussi social, eh bien, ce sont les véhicules que vous trouvez qui permettent de pourquoi pas d'appartenir à une communauté, surtout d'améliorer eh bien, son self-esteem et d'asseoir une valeur personnelle ressentie qui vaut la peine d'être travaillée, éduquée et vécue. Eh bien, il y a 7 étapes que je vais vous apprendre dans la foulée pour conclure avec une histoire de passé, présent, futur, tout à fait reliée à cette longue traîne parce que il y a une vraie inertie à la manière de la roue, de la flywheel, du moulin à vent de Thomas Edison, qui fait que c'est pas du tout quand ça devient dur qu'il faut s'arrêter, par exemple, parce que dans ce cas-là, on est au milieu du tunnel et c'est à peine au moment où on peut imaginer voir la lumière qu'on va sortir. Alors tout ça est très imagé, ça veut dire que ça demande du temps et que quand on commence à faire, il n'y a pas de résultat tout de suite. Il n'y a que des micro-résultats et les résultats, ils viennent loin, loin, loin dans le temps. Je vous ai parlé de mes cycles. Ils font entre 7 et 8 ans. Je veux dire, faut être patient. Et puis, c'est ridicule. 8 ans, c'est quoi ? C'est 8% de ma vie. 10% de ma vie. Bon, si demain, je me fais écraser par un piano qui tombe d'une vitre, d'un déménagement, eh ben merde. Mais si je me... Donc, je travaille quand même pour le futur en m'autorisant à vivre pleinement maintenant. Et ça, c'est... un principe aussi qui est de construire de manière durable et de planter, de faire des actions, non pas parce qu'on les gaspille dans le vent, parce qu'on se dit « Ok, de toute façon, je peux mourir demain, écrasé par une voiture, alors je claque tout aujourd'hui. » Mais c'est quoi ce genre de vie? C'est quoi ce genre de comportement? Vous avez peur ou quoi? Vous avez peur de faire quelque chose d'intéressant? Vous avez peur de faire quelque chose d'utile? Vous avez peur de faire quelque chose de durable? Vous avez peur de vous engager? Vous avez peur d'asseoir vos convictions? Vous avez peur d'avoir une opinion? Eh ben, moi, je pourrais me dire ça à mon moi de plus jeune. Mais il n'existe plus. C'est qu'un fantôme que je peux entretenir dans ma tête. Mais je l'entretiens d'une certaine manière parce que ça me rappelle aussi d'où je viens. Et ça me permet de me comparer à moi par rapport à... Pour voir mon état de progression. À quel point est-ce que j'ai avancé? Jusqu'au jour où ce ne sera peut-être plus nécessaire. J'oublierai quand même pas que j'ai commencé ma vie comme un bagnard à ma vie professionnelle comme un bagnard à ramasser les cailloux avec une pelle et à les déplacer d'un point A à un point B, à avoir les mains éclatées de sang parce que passer 8 heures par jour dans un trou à dégager des gravats, c'est pas drôle et c'est dur. Donc ça me maintient motivé, même si parfois la sensation s'estompe. Il y a d'autres moments où ça ressurgit en mode « Qu'est-ce que tu fous? Mais bouge-toi, va de l'avant, n'oublie pas de vivre le présent, c'est parce que c'est maintenant que ça se passe. Demain n'existe pas encore, mais construis pour demain. Projette-toi, n'oublie pas de vivre dans le présent. » Et donc c'est un système sur lequel je vais revenir en toute fin d'épisode. Mais dès à présent, je vais vous partager les 7 étapes que je peux utiliser en permanence. Et bien, le premier, ce sera lié plutôt à une sorte de tunnel, c'est-à-dire c'est le côté prémortem. Il s'agit d'être impitoyable envers soi. Qu'est-ce qui fait que je peux échouer? Quels sont tous les éléments qui font que je pourrais échouer maintenant, demain, après-demain, et qui pourraient se mettre sur ma route pour m'empêcher de me réaliser? Donc, c'est le côté prémortem. Être capable, pas forcément de tout anticiper, mais de s'imaginer les grandes causes qui font que nous n'aboutirions pas à nos réussites espérées. Parce que nous adopterions un mauvais comportement, parce qu'on retomberait dans les travers, par exemple, de consommation d'alcool, parce qu'on tomberait dans des travers festifs, parce qu'on pourrait ne pas travailler, parce que plein de choses. Le prémortem. Empêchez-vous de mourir en pensant que vous allez mourir. Le deuxième, c'est être capable d'être ce qui s'appelle customer-centric. En fait, c'est être centré sur les autres. C'est une manière d'être exocentrique qui est complémentaire à l'égocentrisme. C'est une manière d'écouter, de résoudre et d'innover par rapport à ce qui existe. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à ce qui vous entoure? Comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur à tous les autres? C'est quoi là où vous êtes doué? Ça pourrait être relié d'ailleurs à ce qui s'appelle l'ikigai, entre vos passions, votre travail, ce qui vous rapporte de l'argent, ce dont la société a besoin, ce que vous aimez faire et ce qui vous passionne. Ça pourrait être lié à ces choses-là, mais c'est surtout une dynamique d'écoute. L'écoute pour apporter des solutions en innovant. Innovant, c'est juste améliorer l'existant. C'est où que les gens, ils ont mal? Voilà, j'appuie là où ça fait mal et j'apporte une solution. C'est important parce que c'est ce qui nous permet de développer notre patience et notre écoute. L'écoute, nous ne savons pas écouter. L'être humain moderne ne sait pas écouter. Je ne vais pas avoir de débat là, avec moi-même et avec vous à distance sur ce sujet, c'est un fait. Et je vous invite d'ailleurs à lire Guy Guzzi, et à le trouver sur Internet. Le troisième, ça va être lié à vous, encore une fois. L'humilité, le fait d'investir en vous, être vigilant sur... avec qui vous faites du networking, avec qui vous êtes en relation, c'est qui votre environnement social, qui compose les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Est-ce que ce sont des gens qui sont là où vous voulez être demain ou pas? Et si ce n'est pas le cas, clairement, échangez. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc soyez humble par rapport à la vie. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, même quand on est l'homme le plus riche du monde. Investissez en vous parce que personne ne le fera à votre place et nous sommes dans ce qui s'appelle l'âge de la connaissance, qui ne remplace pas du tout le fond de toute chose, qui est simplement le fait de l'accomplir, de le faire, de le produire. Mais nous sommes à l'âge de la connaissance où la connaissance est distribuée dans le monde. Il y a des tonnes de gens excellents. C'est insuffisant d'être bon. Donc investissez en vous et soyez vigilant avec qui vous le faites. Le quatrième chose, c'est de passer du temps avec des personnes qui vous inspirent, qui sont là où vous aimeriez être, d'une manière ou d'une autre, et qui entraînent de la motivation lorsque vous passez du temps avec elles. Si ce sont vos héros du jour, comme des artistes, comme des gens qui se sont battus contre le racisme, comme des héros de la guerre, comme des sportifs de haut niveau, etc., et qu'il est impossible pour vous de passer du temps avec eux, mais imaginez-les. Imaginez-vous avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous diraient en permanence? Quels sont les conseils qu'ils vous apporteraient? Comment est-ce que vous pouvez faire pour passer du temps avec eux d'une autre manière que physiquement, puisque ce ne sont peut-être pas vos amis et vos connaissances? Eh bien, il y a des vidéos, il y a des podcasts. C'est possible de partager du temps avec eux sans être directement associé, de manière à se reconnaître dans leur discours, à voir le monde exactement comme on l'interprète grâce aux paroles qu'on nous dit. Mais encore une fois, repensez-y. Soyez humble et sachez écouter, et non pas seulement entendre ce qui est dit. Ne soyez pas attentiste, ne passez pas votre temps avec eux sous prétexte qu'ils vous apportent le réconfort de l'illusion d'être une réussite, parce que vous oublieriez de faire derrière. Faites les choses. Passez du temps avec vos modèles, que ce soit à distance d'une manière imaginaire. Et ça fonctionne clairement. Si votre héros des temps modernes, c'est Charlie Chaplin, imaginez Charlie Chaplin avec vous sur votre canapé. Imaginez Charlie Chaplin avec vous pendant votre café. Imaginez ce qu'il vous dirait ou pas, ce qu'il vous mimerait de telle sorte qu'il vous accompagne dans le quotidien et vous guide quelque part, un petit peu comme un ami imaginaire, et ça n'a rien de psychopathe. C'est une putain de réalité qu'on peut concevoir et qui a du sens dans notre monde moderne, parce que notre cerveau est capable de nous permettre d'identifier des cheminements à accomplir grâce à ce genre d'interaction avec la réalité. La cinquième chose, c'est que avoir peur, c'est une question de perception. L'échec n'est pas mauvais. C'est pas grave. Le fait d'avoir peur, je rejoins l'épisode précédent, c'était le 292 peut-être, ou 291, je vous laisserai chercher. 293 plutôt. La peur, c'est dans ma tête. La peur est une notion émotionnelle. La peur, c'est une sensation qui se traduit physiquement parce que le cerveau interprète une situation comme étant dangereuse pour nous et il veut nous la faire esquiver. Mais bien souvent, quand on a déjà de quoi manger et quand on a un toit sur sa tête, tout le reste est futile. Perdre son job, j'en trouve un autre. Déménager, c'est pas grave. Perdre ma relation, c'est pas grave. C'est justement à partir du moment où je sais que perdre les choses n'est pas grave, que je peux les conserver parce que je connais leur valeur, parce que je sais pourquoi est-ce que je me bats, parce que du coup, je peux aller dans cette zone qui s'appelle le courage, qui se situe à la limite de la peur et qui est ma capacité à être courageux, à accomplir des choses malgré que je puisse être inquiet sur le futur. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. La peur n'est qu'une notion de perception. N'ayez pas peur des critiques non plus, parce que on critique souvent, mais la critique ne conduit à rien. Les personnes qui réussissent sont à la fois critiquées et admirées. Et souvent, la critique est aussi liée à ce que les autres projettent sur vous comme étant l'absence de réussite que vous leur montrez chez eux. Donc, c'est aussi de la jalousie et une sorte de transposition de l'incapacité à faire qui est vécue par procuration. Donc, la cinquième chose, c'est la peur du perception. Soyez courageux. La sixième chose, c'est la distorsion. Et ça rejoint le point 4 et le point 5, qui sont le fait de passer du temps de manière imaginaire avec certaines personnes que l'on admire, et dans la réalité aussi d'ailleurs, ainsi que la perception avec la peur. Imaginez votre futur. Pensez à une vision pour vous, pour les autres. Que voulez-vous voir dans le monde plus tard? Qu'êtes-vous impatient de voir se produire? Qu'êtes-vous capable d'apporter au monde? Et comment faites-vous la liaison entre les deux? Comment, dans 10 ans, vous voyez-vous et que voulez-vous construire pour vous, pour votre famille, pour vos amis, pour le monde en général, pour le local, pour le global, pour le glocal, pour la contraction entre les deux, pour tout? C'est quoi l'imagination du futur chez vous? C'est quoi la vision du futur chez vous? C'est quoi votre vision pour vous? C'est quoi votre vision pour les autres? Et comment pouvez-vous distordre la réalité de telle sorte que vous arriviez à vous transformer encore une fois, parce que vous l'avez déjà fait, en inventeur, c'est-à-dire en un imaginatif qui fait? Et la dernière chose, c'est la capacité à raconter une histoire qui s'appelle le storytelling. C'est littéralement l'histoire que vous vous racontez qui permet de vous projeter de l'avant, d'avancer en fonction de l'histoire que vous vous racontez. Et je rejoins cette histoire de tout à l'heure en fonction de ma situation personnelle. Si votre histoire elle est naze, vous serez naze. Si votre histoire elle est grandiose, il se peut que vous soyez grandiose. Néanmoins, c'est là quand il y a la notion de congruence qui apparaît. Votre histoire vous permettra d'accomplir des choses, mais le niveau d'exigence que vous aurez dans l'accomplissement de ces choses vous permettra, à travers l'action, d'accomplir cette histoire, de respecter cette histoire, de valoriser cette histoire et de ne pas la subir, comme si vous étiez en train, depuis votre canapé, à manger des chips en vous disant « je serai l'athlète de fitness le plus reconnu du monde ». Ça n'a aucun sens dans ces conditions. Non. À quel point est-ce que vous êtes comme Cristiano Ronaldo ou pas? C'est-à-dire quelqu'un qui se dédie corps et âme, c'était la définition de T. Harv Eker, du Millionaire Mindset, pour décrire ce qu'est l'engagement. À quel point êtes-vous dédié à votre cause ou pas? Et ne pas l'être à 100%, c'est pas grave. Il faut que ça puisse vous correspondre aussi. Et tout cela nous amène, c'était les 7 points, le pré-mortem, l'écoute, l'humilité, passer du temps avec les gens qui nous inspirent, la notion de perception et de courage et de peur, la distorsion de la réalité avec l'imagination du futur et l'histoire que l'on peut se raconter pour aller accomplir de nouvelles histoires. Et je peux vous partager trois éléments que moi je me suis écrit qui correspondent à certaines études et à certaines actions que je mets en œuvre liées à ma projection professionnelle et à d'autres d'ailleurs, dans lesquelles je ne rentrerai pas forcément en détail parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais c'est juste pour vous donner un exemple de résultat qui est une synthèse de certaines choses, mais qui est un résultat partiel dans son ensemble, qui est un déterminant, c'est un déterminant, parce que notre réussite est composée de nombreux déterminants, disons que c'est un des déterminants, lié au passé par exemple, faire face à ses contradictions, prendre ma vie en main et m'autoriser à vivre pleinement. Paf, est-ce que c'est une case cochée? Oui, non. Bon, on avance. Présent, mobiliser le potentiel collectif pour m'émanciper collectivement et vivre mon plein potentiel. C'est hyper auto-centré. C'est beaucoup de moi, mais ça commence quand même à se tourner vers les autres. C'est une case à cocher aussi à un moment donné. Et le futur, manager mes investissements pour prospérer, devenir libre et très riche, au moins c'est annoncé. Maintenant, quels sont les montants, quelle est la temporalité, dans quel pays, etc., etc., etc. Eh bien, on peut aller chercher tout un tas d'objectifs que l'on y associe, et ça correspond à différentes situations. Et par exemple, si je peux vous partager le rapprochement avec le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki, eh bien, le passé correspond à cette transition d'employé à travailleur, de CDI par exemple à travailleur, qui est le fait d'être entrepreneur et d'échanger son temps et ses résultats contre de l'argent, vers le présent de travailleur à propriétaire de société, d'entreprise, et le futur de propriétaire d'entreprise cumulé avec une situation d'investisseur. Donc il y a aussi une mécanique derrière, une mécanique psychologique, une mécanique morale, une mécanique éthique, une mécanique d'engagement, une mécanique d'accomplissement, une mécanique surtout de réflexion et d'action conjointe, combinée, qui font que eh bien, j'essaye à ma manière d'adapter aussi le chemin que j'emprunte à mes objectifs. Et si ceux-ci sont flous, il y a de fortes chances que je sache d'où je pars, mais que je ne sais pas exactement où je vais arriver. Donc charge à moi de revenir aussi vers des fondamentaux qui sont extrêmement bien délimités, de manière à aller quelque part où c'est précis. Même si au final, je peux, au cours de route, eh bien changer de trajectoire ou la faire évoluer. Alors, quand on commence à agir à un instant T, ça a toujours un impact 6 mois, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, parce que d'une part, on s'en rappelle, et de deux, il y a un effet écho dans le temps qui fait qu'à un moment donné, on va nous rappeler certaines choses, les éléments de la vie font que ça se rappelle à nous d'une manière ou d'une autre. Donc, quand vous plantez, quand vous faites une action importante pour vous, n'oubliez pas qu'à un moment, ça va pousser. N'oubliez pas qu'à un moment, ça va germer. Vous faites du mal à quelqu'un, ça risque de vous retomber sur la tronche. Vous faites une bonne action, ça risque de vous retomber sur la tronche. Ce n'est pas spécialement lié au karma. Ce n'est pas du tout l'objet de cette idée. C'est vraiment cette notion de conséquence de ce que l'on peut faire. Il y a des conséquences qui sont diffuses dans le temps, à court, moyen et long terme. Et qu'en fonction des actions que j'entreprends, eh bien maintenant, demain et l'année prochaine et l'année suivante, il va y avoir des conséquences. Charge à moi, non pas de les anticiper parce que je ne sais pas quelle forme elles prendront, mais de planter les bonnes graines aujourd'hui. Parce que si je mets des tournesols, je sais que demain j'aurai un champ de tournesols. Eh bien, ils seront peut-être un peu malades, mais j'aurai des tournesols. Ils seront peut-être extrêmement éclatants, mais j'aurai des tournesols. Donc, je pourrais entretenir aussi le champ que j'aurais fait pousser en fonction de ce qui y a poussé. Ensuite, si j'ai besoin de tout déraciner et de replanter des géraniums, eh bien, ça va me prendre du temps. Donc, c'est qu'est-ce que je fais pousser aujourd'hui? Combien d'espèces différentes je fais pousser dans mon jardin? Quelles sont les actions différentes que je mets en œuvre de telle sorte que, eh bien, je puisse compter, capitaliser sur une longue traîne grâce à une sorte d'anticipation contemporaine, en étant dans un environnement volatile, incertain et dangereux, aujourd'hui, en mettant en œuvre des bonnes actions qui auront du sens quand elles pousseront aussi demain. Et c'est vers là que je vais vous attirer dans l'épisode prochain qui s'appelle « Les ouvertures dédiées au futur des possibles » qui nous concerne tous. Alors je vous invite à partager votre retour d'expérience eh bien, sur l'application Encore, à nouveau, produit par Spotify, ou bien commenter l'épisode illustré du même titre, La Longue Traîne, qui est l'épisode numéro 296 de ce jour. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée!